With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et aujourd'hui, ho ho ho, ce n'est pas le géant vert car je suis la mère Noël. Voici une spéciale bûche et Christmas Carols avec les participations du Grinch, Geoffrey Crété, bonjour.
Ok, j'adore ce surnom, merci.
De mon elfe préféré, Perrine Kenson, bonjour Perrine.
Bonjour. Cling, 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 cling.
Et de Rudolf Krupp, mon reine, c'est un peu mon reine.
Avec
quoi.
Avec le nez rouge, en fait, voilà. Je suis bourré, c'est ça.
Tout à fait.
Tout le monde le sait.
Une spéciale Noël pour laquelle chacun d'entre vous vient proposer ses épisodes de Noël en série préférée. Et on va y aller rapidement parce qu'on a beaucoup d'extraits, donc honneur à la plus belle, Perrine, premier épisode.
C'est moi.
Non, Perrine, j'ai dit Perrine, P-E-R-I-N-E.
Ah, okay. Non, on nous confond, c'est pour ça.
Rudolf, ce sera ton tour après. Premier épisode choisi, Rick and Morty, Anatomy Parks.
Non, je déteste ça, arrêtez.
Noël n'est pas une fête qui célèbre ce que l'on déteste, mon grand.
Dans ce cas, je déteste Noël, célébrez bien cette communion. Vous êtes tous dégoûtants.
On est dans l'univers de Rick et Morty. Évidemment, quand un épisode s'appelle Anatomy Parks et qu'on a créé, Rick a créé un parc d'attractions dans le corps d'un SDF qui ressemble fortement à une sorte de Jurassic Park, évidemment, c'est fait pour moi.
Voilà.
Donc, c'est cette rencontre de Jurassic Park et de l'aventure intérieure, en quelque sorte. C'est très, très rigolo, c'est complètement n'importe quoi, c'est ultra violent, comme d'habitude, chez Rick et Morty. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'en parallèle, on a donc le père. Bien sûr, là j'ai un trou sur son nom, c'est terrible, bien sûr, évidemment. Renan Crowe, comment il s'appelle déjà le père dans la famille Rick et Morty?
Oui, mais c'est, j'ai un trou aussi, mais on est vraiment des branques dans cette émission. On n'est pas des experts, hein. En fait, on est juste des gens trouvés dans la rue.
On a des problèmes de prénom. Mais donc, le père qui veut absolument faire un Noël traditionnel, enlever tous les objets technologiques et qui
reçoit. Jerry Smith.
Jerry Smith, voilà. Qui, Jerry qui veut
recevoir
ses
parents. Dans Parks, on oublie les Jerry.
Jerry, Gary, on ne sait plus. Et donc ses parents, il va pas être déçu puisqu'en fait, il va recevoir ses parents, mais aussi l'amant de sa mère que son père regarde à partir du placard quand ils se font des cochoncetés, comme on dit. Donc finalement, il va avoir un petit.
C'est même du sexe, Perrine.
Je ne le dirai pas,
Ou du cul.
Ça dépend de quel côté on le fait.
Eh ben, bravo votre esprit de Noël. Ben, je suis un petit peu comme Jerry, moi aussi je suis un peu choquée. Et donc l'idée de famille va être complètement retransformée cette rencontre à la fois un épisode un petit peu centré sur Jerry, c'était déjà on commençait à s'intéresser vraiment à la figure de Jerry, et de l'autre côté ce remake de Jurassic Park qui tourne court, il faut s'échapper d'un corps qui est en train de mourir à cause de l'alcoolisme. Pour moi, ça me parle personnellement pour Jurassic Park et l'alcoolisme, une petite merveille de Rick et Morty,
l'esprit de Noël en quelque sorte,
de Noël selon moi.
Je vais prévenir d'entrée de jeu tous les gens qui nous écoutent. Sachez que l'esprit de Noël sera quasiment complètement absent. Enfin, en tout cas, l'esprit de Noël traditionnel, à base de bienveillance, de générosité. Ces gens sont affreux, ils ne vous ont choisi que des extraits atroces.
Une dose de gentillesse quelque part, c'est sûr.
Ouais, ce sera Renan tout à l'heure, mais c'est un spoiler.
Hey
donc, esprit de Noël très contrarié. Toujours, hein, avec Geoffrey le Grinch. Fidèle à ta légende, c'est un épisode des Contes de la Crypte que tu as choisi, un épisode réalisé par Robert Zemeckis et intitulé tout simplement « Une nuit de Noël pour femme adultère ».
Maman !
Carrie !
Où est-ce qu'il est, maman ? Il m'a apporté mes jouets maintenant.
Oh, vous êtes censée être au lit, mademoiselle.
Mais il est là, je l'ai vu !
Qui ça ?
Lui, le Père Noël.
Oh, viens maintenant.
Mais je l'ai vu ! Il est là, dehors. Bonne nuit, Joseph.
Allez, viens.
Pourquoi il m'a pas dit bonne nuit, Joseph?
Oui, le titre, on dirait un film porno, mais c'est un épisode super des Contes de la Crypte, parce qu'il réunit absolument tout ce qui est génial dans cette anthologie. Il y a ce côté très moralisateur, puisque tout tourne autour d'une femme qui, le soir de Noël, décide de fracasser le crâne de son nouveau mari avec le tisonnier parce qu'elle en a marre et qu'elle veut fuir avec son amant et prendre l'argent de son nouveau mari. À l'étage du dessus, il y a sa petite fille qui dort paisiblement et qu'elle essaye d'épargner, mais qui voit de loin le cadavre en croyant que c'est son papa qui dort. Et ensuite, surtout, pendant qu'elle essaie de se débarrasser du cadavre, il y a un bulletin radio d'information qui dit qu'un serial killer s'est échappé d'un asile avec un costume de Père Noël et une hache. C'est le début de ce joyeux bordel. Et évidemment, la suite, c'est génial, puisque Robert Zemeckis, il s'amuse énormément. Il y a plein de jeux avec le décor, avec le son, des choses qui sont données aux spectateurs uniquement, qui voient qu'elle a oublié les clés. Et le Père Noël essaie de rentrer par tous les côtés. Elle essaie de prendre un flingue. Elle se retrouve enfermée dans le placard. Elle voit le Père Noël qui essaie de monter pour choper sa petite fille. Elle appelle les flics pour qu'ils viennent arrêter le Père Noël, sauf qu'en fait, elle a le cadavre de son mari sous les yeux. Donc, elle raccroche en se disant que c'est une mauvaise idée. Ensuite, elle fout la hache du Père Noël qu'elle a assommée dans la tête de son mari pour essayer de noyer le poisson. Sauf qu'en fait, le Père Noël se réveille et prend la hache. Donc, une deuxième fois, elle se dit « Merde, je raccroche ». Donc voilà, c'est assez joyeux. C'est très, très drôle. En plus, il y a ce côté très, très vilain, conte de la crypte, avec beaucoup d'humour noir et cynisme. Et surtout, ce côté super kitsch à la fin où... au moment où tout est fini, où elle se dit que c'est perdu et que le Père Noël est rentré grâce à l'aide de sa petite fille, qui est contente que le Père Noël soit là. Le Père Noël la regarde avec ses dents pourries comme un vieil alcoolique et lui dit « Alors, on a été méchante cette année ?» Et elle, elle hurle pendant une minute, non-stop, dans tous les sens. Elle s'assoit, elle hurle en gros plan. Voilà, c'est le conte de la crypte, c'est génial. Je pense qu'il y a toutes les sens dans cet épisode et je sais de source sûre qu'il a marqué plein de gens de très bon goût.
Non, mais c'est surtout que la scène d'ouverture est incroyable parce que donc c'est la femme en question qui essaye de se débarrasser de son mari et le tisonnier dont elle se sert, elle met 300 ans à l'enfoncer dans le crâne de son mari et elle met 300 ans à l'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a quand même avec force bruitage, etc. Et la poursuite derrière est interminable.
Bah,
et
globalement,
c'est,
moi,
c'est bizarrement hyper drôle.
Ça ressemble à mes Noël, moi. Hein. Elle, je suis vachement identifié à ce qu'a dit Geoffrey. Ça ressemble à mes Noël. J'ai l'impression vraiment de revoir toute ma vie.
Vraiment, en tout cas, je suis contente du choix de Geoffrey parce qu'on retrouve le placard et on retrouve le mec flippant avec des dents pourries qu'on a dans Rick et Morty. Donc, franchement, ça me fait plaisir.
Une connexion. Et elle lui dit quand même, après lui avoir fracassé le crâne, Joyeux Noël, espèce de sale fils de pute. Voilà.
C'est vrai.
On a tous envie de dire à un moment à Noël qu'on ne fait pas. Elle le fait pour nous.
Et c'est très regardable en VF, en fait.
Ah ben, c'est
comme,
même
comme tout ce qui est d'époque. Ouais, c'est vraiment ça.
Vous regardez là-dedans sur YouTube avec une vidéo, un VHS rip bien pourri.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que c'était ça, les années 90, et que c'était beau.
Alors, Renan, non, c'est pas toi maintenant. Si, c'est toi maintenant. Si, elle est, c'est ça, c'est toi.
Renan, tu dégages.
Je savais plus. C'est ça que tu veux dire. Je t'ai perdu, écoutez, c'est comme ça. Renan, oui, heureusement, tu es là pour assurer la joie, enfin... Il paraît,
oui, non, moyen.
Puisque tu as choisi The Devil of Christmas by Insider Number 9.
Something about his eyes. Like he knows something. Everything.
Well, I think we'll stick with good old Father Christmas if it's all the same with you, Klaus.
Oui, c'est une série dont j'ai quand même très peu parlé dans cette émission. Je pense que j'ai cité à peu près chaque émission.
J'ai jamais entendu parler de... Non, je ne sais pas, ça te relance pas.
Donc c'est un peu la suite de ce qu'a raconté Geoffrey, une anthologie, c'est un peu proche aussi des contes de la crypte. C'est un épisode très spécial, c'était l'épisode de Noël. En fait, c'est un épisode qui imite en fait les fictions, les téléfilms anglais des années 70. Donc ça a une patte années 70, ça ressemble, vous voyez, à une espèce de truc, ils ont tous des grosses moustaches, ça se passe dans un chalet et c'est soi-disant donc l'histoire d'une famille qui est dans un chalet et on leur raconte la légende de Krampus, le monstre de Noël, et on se doute bien évidemment que dans ce téléfilm, il va se passer quelque chose de terrible. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'y passe parce que c'est le twist final. C'est le truc le plus sordide et le plus glauque que j'ai vu de la série. Je vais vous raconter un peu ma vie parce que je l'ai quand même peu fait dans cette émission. Moi, j'ai vu cet épisode en direct.
Pardon. C'était pas un gag.
J'ai vu cet épisode en direct à Londres puisque j'étais c'était l'époque à Noël où j'étais à Londres. Et donc, j'ai vu ça dans l'ambiance londonienne. C'est un des plus gros cauchemars que j'ai eu vraiment seul dans une chambre à voir comme ça cet épisode. Le final est tordu. Et surtout, ça raconte aussi, sans trop spoiler, le rapport aux images. Parce que donc, en fait, on suit cet épisode et il y a une voix off qui commente. Et quand on comprend qui est cette voix off, vraiment, ça vous file des frissons. C'est sordide, c'est étrange. Et en même temps, il y a cette capacité géniale d'Inside Number 9 à recomposer disais, ce truc années 70, c'est très très bien fait, et à jouer avec la peur de Noël, avec les monstres de Noël, parce qu'il y a ça aussi, c'est quand même une grande légende de Krampus, et comment en fait la fin n'est jamais ce à quoi on s'attend. C'est pas le truc le plus feel good, je pense que c'est pas presque Perrine pour l'instant qui a choisi le plus Esprit de Noël, mais c'est vraiment un épisode jubilatoire et terrifiant.
Alors, bah, retour à l'Esprit de Noël avec Perrine, heureusement, merci, tu es là pour amener un peu de joie dans ce Noël sordide proposé par les deux là. Et je me dis que si Charlotte Bloom avait été là, peut-être on aurait encore repris un cran au niveau du gloomy Christmas.
Ouais. Mais je comprends pas, c'est pas de notre faute, c'est Noël qui est sordide, on est juste honnête. Hein. Faut arrêter de croire que c'est nous la responsable. Hein.
Allez, Perrine, on revient à toi et à la joie des Noëls en famille chez Malcolm.
C'est toi, maman ? On est très content de te voir.
J'en ai plus qu'assez de vous !
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Je confisque tout ça, ça se voit, non ? Tous les paquets et toutes les décorations, tous les cadeaux confisqués jusqu'à de nouvel ordre. Chaque fois que c'est Noël, il faut que vous vous bombardiez de boules, que vous hurliez, que vous mettiez feu, et moi j'en ai assez.
Finalement, moi on retrouve la famille de Malcolm et Loïs qui agit un petit peu comme le Krampus ou un petit peu comme le Grinch, je ne sais pas, puisqu'elle décide de annuler Noël. Elle en a ras le cul. Des gosses, ils sont insupportables, que ce soit Malcolm, Reese, Dewey, ils font que des conneries, et là c'était la fois de trop, donc elle décide de cancel Christmas, et elle enferme les cadeaux, et donc les garçons, ils décident de bien se comporter, ce qui leur fait du mal à l'intérieur, hein, vraiment, de l'idée d'être gentil pour pouvoir avoir les cadeaux, et ils finissent par comprendre que si elle fait ça pour Noël, elle va faire ça pour toutes les autres fêtes, c'est-à-dire leur anniversaire, Halloween, elle risque de cancel tout, donc ils vont se venger. Et se venger, c'est ouvrir les cadeaux avant l'heure, etc. Donc, belle vengeance. Et en même temps, de l'autre côté, on a Francis qui est obligé d'aller passer Noël avec sa grand-mère, qui est loin d'être une personne sympathique. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on a vraiment cet esprit de Noël de chez Malcolm. Mais ce qui est vraiment, je trouve, fabuleux dans cette série, comme d'habitude, c'est qu'elle nous raconte quelque chose, finalement, qui est aussi de l'esprit de Noël, c'est le déni. En fait, c'est cette espèce de déni, puisqu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il faut faire semblant. Donc, on fait semblant, à un moment donné, d'oublier que les gamins sont relous. On fait semblant d'oublier que maman, elle a été parfois un petit peu dure. On fait semblant d'oublier que Hal est vraiment un boulet. On décide de célébrer Noël, puisque c'est l'idée que la fête est un énorme déni. On se met dans une idée de ce que doit être Noël pour finalement avoir un moment de répit dans nos vies à tous. Et il y a quelque chose d'assez joli aussi dans l'épisode où on s'aperçoit que en fait, les garçons, quand ils ouvrent tous les cadeaux, ils découvrent que leur mère a pensé à eux et leur a acheté exactement ce qu'ils voulaient. Donc, comme d'habitude, on montre que dans cette série, Loïs est quand même la meilleure mère de tous les temps, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vraiment la meilleure mère de tous les temps. Et on a cette grand-mère géniale qui a acheté des cadeaux géniaux pour tout le monde, mais ne les a jamais offerts parce qu'elle était vexée à chaque fois, puisqu'à un moment donné, son petit-fils l'a appelé caca au téléphone et a raccroché, ça l'a vexé. Ou bien sa cousine, à qui elle avait acheté un super cadeau, a épousé un protestant, ça l'a saoulée. Donc finalement, elle représente très très bien ce qui est aussi l'esprit de Noël, comment se venger des petites vexations du quotidien. Donc c'est, comme d'habitude, une merveille de la part une merveille d'écriture de la part des créateurs de Malcolm, en fait.
Quand tu dis, Perrine, se venger des vexations du quotidien, ça veut dire que j'aurais pas de cadeau de Noël cette année, c'est ça que tu...
Non, toi, t'as pas de cadeau Noël pour les 100 prochaines années. C'est-à-dire qu'on a un mic au bout d'un moment.
Donc, vous vivez ensemble.
Oui, bien sûr. C'est le moment de le dire dans l'émission.
Mais
oui.
Dans deux pièces différentes. Hey, c'est ça. Je t'entends.
Coucou, Perrine, tu vois, attends, je te donne un verre.
Les mauvais comédiens, on dirait une sitcom des années... Pouf, voilà, j'ai même pas la date.
Avec le physique de Perrine, c'est 80. Hein.
Oh, mais l'autre,
c'est un compliment ou pas ? Parce que franchement, c'est pas très clair. Hein.
C'est les deux.
Il sait pas où se situer. Il sait pas vraiment être complètement méchant ni complètement.
Il joue sur l'ambiguïté, clairement.
Ouais. Il est troublé. Moi, je suis dans l'ambiguïté, exactement.
Ouais, mais non, avec ta coupe de cheveux, c'est aucune époque. Personne n'a jamais voulu ça. Donc...
Je me sens un peu comme la mère dans Malcolm, c'est-à-dire obligée d'arbitrer des discussions entre mes enfants.
Et moi, je suis Dewey, alors.
Ouais.
Alors, Geoffrey, il semblerait qu'un petit cœur romantique batte quand même sous les kilos et les kilos et les kilos de ciment, la dalle de béton qui le recouvre.
Elle vient de te dire que t'étais gros, hein, clairement.
Non, vient de me dire que j'étais quelqu'un de précieux et que la beauté était cachée en moi.
Voilà. Allez, la preuve de ce petit cœur qui bat avec ton deuxième choix, puisque tu nous proposes Amends, un épisode de Buffy. Hey.
Angel. So, are you shopping? You're probably not shopping.
I couldn't sleep.
Vampires probably not that big on Christmas now that I think about it.
Not as a rule.
Alors, pour le titre VF qui sera plus clair, ça s'appelle Le Soleil de Noël. Parce que oui, c'est le seul épisode de Noël de toute la série Buffy contre les vampires. Il est écrit et réalisé par Joss Whedon, ce qui veut quand même dire que le mec, il y croyait. Hein. On peut comprendre à moitié. Et j'aime beaucoup Buffy, donc tout ce que je considérais comme nier, c'est quand même un peu un compliment. Comme la coupe de cheveux années 80 de Perrine. C'est à ce moment-là de la saison 3, c'est quand même un peu le bordel pour tous les personnages. Ils sont tous à un moment un peu charnière, de dramaturgie un peu intense. Willow embrasse Alex et Oz et Cordelia sont très énervés. Faith, elle est un petit peu en train de glisser vers le mauvais côté de elle-même. Elle est toute seule dans une chambre d'hôtel miteuse. Angel, surtout, est hanté par toutes les personnes qu'il a tuées par le passé, parce que c'est un gentil vampire romantique, mais qui est tourmenté. Donc, il regarde dans le vide avec ses beaux cheveux et sa mâchoire, parce qu'il est triste et qu'il est beau. Et surtout, on est à Sunnydale, en Californie, donc Noël, c'est sous le soleil. Donc, tout le monde passe tout l'épisode à dire qu'il fait très chaud, qu'il fait super chaud, qu'ils en ont marre. Et tout l'enjeu va être aussi l'apparition primordiale de la grande force du mal qui s'appelle The First. C'est la première fois qu'elle apparaît dans la série. Ce sera le grand ennemi de la saison 7, de l'ultime saison. Et en gros, c'est un mal un peu abstrait qui apparaît avec des CGI tout pourris et qui est un peu l'incarnation du mal absolu, qui prend la forme de tout n'importe quoi. Et là, elle prend la forme de toutes les victimes passées d'Angel, donc elles reviennent le tourmenter pour essayer de le pousser à la folie pour qu'il morde le cou de Buffy pour la tuer. Voilà en gros. Et ce qui se passe à la fin de l'épisode, puisque tout ça n'a pas grand rapport avec Noël, c'est qu'au moment où Angel veut se suicider au premier rayon du soleil et que Buffy arrive au sol avec sa mèche de cheveux années 90 pour l'implorer de rester vivant, le soleil ne se lève pas. Parce qu'il neige, c'est la magie de Noël, le miracle de Noël. Voilà, c'est super niais.
C'est parti.
Franchement, oui, c'est le même mot, hein, mais c'est juste deux perspectives différentes sur le sentiment. mais c'est amusant parce que ça réunit un peu tout le côté un peu niais, mais si on marche, ça marche bien. Le côté un peu surjeu et surécriture, qui peut être un petit peu ridicule quand même quand Angel est à la fin. Angel et Buffy quand même en le revoyant, je me suis dit mon Dieu. Mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent en coulisses sur tous les autres personnages. Il y a ce moment très joli, très typiquement américain de réunion où tout le monde va à la fenêtre ou sur le porche et regarde la neige tomber en se disant oh c'est la fin du monde bientôt, mais quand même on est mignon, on est beau tous ensemble, on est bien coiffé. Et puis voilà, il marche à la fin. Il y a un gros plan, un plan magnifique où il marche dans une neige artificielle, Angel et Buffy. Dans une rue de studio toute pourrie qu'on en a vu des milliers de fois, et c'est beau, et c'est directed by Joss Whedon. Voilà.
Mais tu es donc dans la team Angel, toi ?
Ah, j'aime pas du tout Angel. Je suis team Faith et Buffy.
Mais team Spike ? Vous êtes fous, quoi, vous avez perdu tout sens commun.
Mais uniquement en relation sadomaso avec Buffy, parce que sinon il est un peu chiant, ou en relation avec Drusilla.
Ouais. Moi j'aime bien le mec qui est dans la bibliothèque, je sais pas comment il s'appelle, il est bien lui.
Jace ?
Voilà, moi je suis lui.
Ah, le vieux.
Voilà.
T'es tellement le bibliothécaire.
Moi je suis bibliothécaire, moi je reste dans la bibliothèque. Voilà, voilà les monstres en carton-pâte, c'est bon quoi.
Non, il est un peu sexy, hein, Jace.
Non, Perrine, non.
En VO, peut-être quand il est rocker et qu'on découvre que l'acteur chante, peut-être, non ?
Non, mais
c'est ça.
Ouais. Arrête,
c'est une façon de me demander une chanson, je crois.
Il est parfumé au parchemin, quoi. Ça se voit. Il y a un truc genre.
Ah, mais j'adore ça.
C'est toute mon odeur.
Putain, je vais la ressortir ça.
Et Renan, je ne dis rien de ton deuxième choix. Tout le monde le retrouvera.
I'm the holiday armadillo. I'm a friend of Santa's, and he sent me here to wish you a Merry Christmas.
What happened to Santa, holiday armadillo?
Santa was unavailable so close to Christmas.
J'ai un peu triché parce que c'est deux épisodes. Il y a celui-ci et puis celui qui ne porte pas ce nom-là, mais on va l'appeler l'épisode de la routine, qui est saison 6. L'Armadillo, c'est saison 7. Qui ne sont pas vraiment des épisodes de Noël et qui sont quand même des épisodes de Noël. En fait, Friends a fait des vrais épisodes Thanksgiving parce que tout le sujet de Friends, c'est vraiment être ensemble autour de la table. Et Noël, c'est pas vraiment, vraiment le sujet de Friends. Il y a quelques épisodes qui traitent Noël, mais ces deux-là sont très particuliers. Donc, l'Armadillo de Noël, c'est vraiment le moment où, justement, Friends traite, et c'est très rare, de la question de la religion. Et notamment, donc, ici, Ross, père célibataire qui veut que son fils ne fête pas Noël, mais fête Hanouka. Et donc, il tente de lui expliquer le principe d'Hanouka, sauf que le petit Ben... Vous savez quel âge aurait Ben aujourd'hui ?
20 ans ?
Je crois que ça fait 38 ans. Plus que ça, même, je crois.
Il est en EHPAD.
Il est mort du Covid, d'ailleurs.
Non, mais ça m'a déprimé. Et le petit Ben, en fait, lui, il adore le Père Noël. Et donc, il y a cette scène géniale où Ross cherche un déguisement de Père Noël. Il n'en trouve pas. Il y a cette réplique extraordinaire où il va au magasin. Et il arrive dans le magasin de costumes et le type lui dit « Vous êtes venu rendre ce pantalon ?» Il dit non, c'est le mien. Et ça m'a fait hurler de rire. Genre vraiment en revoyant cette scène. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, tous les personnages se mettent à arriver déguisés. Donc, il y a évidemment Chandler en Père Noël et Joey en Superman. Et ça raconte Friends, en fait. Cette partie de l'épisode sur donc, les croyances de Noël, c'est vraiment la capacité de Friends à mélanger à la fois donc, le réel, cette question d'Anouka qui est vraiment traitée dans la série, en même temps la comédie avec le Père Noël, et puis la pop culture avec Superman qui arrive, et de mélanger tout ça, puisqu'on apprend, grâce au récit que fait Ross à son fils, que c'est Superman qui a aidé les Juifs à traverser la mer morte. C'est vraiment très très drôle. Et puis cet épisode de la routine qui est vraiment, mais je crois que c'est un de mes préférés.
Excuse-moi. 5, 6, 7, 8.
Mais oui, non, mais il faut savoir qu'avec Charline Roux, un jour on fera cette routine. Quand les boîtes de nuit vont rouvrir, c'est la première chose qu'on va faire. On va
faire là avec mon téléphone pour en faire une story.
Exactement. C'est vraiment. Et donc, il y a eux qui veulent danser pour le nouvel an. Et surtout, en face, j'avais oublié Phoebe, Rachel et Chandler qui cherchent les cadeaux de Noël de Monica qu'elle a planqué partout. Et ils découvrent des cadeaux pourris. Et en fait, ils sont nuls, les cadeaux de Monica. Et Chandler dit non, c'était les miens. Moi, ça m'a fait mourir de rire. C'est vraiment le génie de Friends aussi de raconter ça. C'est-à-dire que Noël, c'est à la fois, on oublie, c'est de la croyance et c'est aussi du commercial. Ils ont mélangé tout ça dans deux épisodes. C'est des merveilles. Friends, franchement, il faut revoir ça en permanence.
Et meilleur épisode de Thanksgiving, celui avec Brad Pitt.
Avec Brad Pitt, évidemment.
Mais bon, non, avec le gâteau. Avec le gâteau de Rachel, là, où elle mélange tout.
Le trifle.
Ouais, et tout, là. Ah. Bah, celui-là, elle est magnifique.
Il y a un livre de recettes Friends qui est sorti, ouais, où on peut reproduire toutes les recettes.
Il y a le trifle de Rachel dedans, ouais, ouais. Bien sûr.
Bien sûr. Quand Phoebe criait « J'adore la Kif Cousteau !»
Ah, c'est vraiment génial.
Et alors moi aussi, je vous ai choisi un petit épisode de Noël et comme Londres me manque, je vais aller là.
Come on, surely you've all seen the present at the top of the bag. Perfectly wrapped with a bow. All the others are slapdash at best. It's for someone special then. Shade of red echoes her lipstick, either an unconscious association or one that she's deliberately trying to encourage. Either way, Miss Hooper has love on her mind. The fact that she's serious about him is clear from the fact she's giving him a gift at all. That always suggests long-term hopes, however forlorn, and that she's seeing him tonight is evident from her makeup and what she's wearing. Obviously trying to compensate for the size of her mouth and breasts.
You always say such horrible things. Every time. Always. Always.
I am sorry. Forgive me.
Extrait d'un scandale à Buckingham, le premier épisode de la deuxième saison de Sherlock, et je pense mon épisode préféré de tout Sherlock, puisque c'est l'épisode où apparaît The Woman, soit Irene Adler. Et en fait, j'aime beaucoup cette scène qui est extrêmement triste en même temps parce que c'est encore une fois Molly qui ramasse, mais c'est possiblement un des seuls moments où on voit Sherlock et s'excuser et mettre le genou à terre quand même, parce que ce personnage est absolument odieux, même si dans mon cœur il reste délicieux à tout jamais. Mais c'est un chouette épisode de Noël, pas du tout dans l'esprit de Noël, parce qu'il n'y avait pas de raison que je ne sois pas raccord avec vous, bande de petits sadiques. Alors, je ne vous ai pas informé de l'idée de génie de Renan Crowe qui m'a suggéré, mais du coup, je ne vous ai pas informé, Perrine et Geoffrey, puisque c'est l'heure de la surprise.
Faire une intégrale reprise de Trois Cafés Gourmands, c'est ça qu'on va faire maintenant. On va écouter l'album de Trois Cafés Gourmands.
Non, Renan.
Je vais la tête de Geoffrey.
Renan, ouais, voudrait qu'on joue.
C'est bien que ce soit que le son. Hein.
Renan voulait qu'en guise de reco, nous jouions au jeu du Père Noël surprise, c'est-à-dire que je vais désigner l'un d'entre vous qui devra conseiller une série à un autre. Donc, il va falloir être.
N'importe quelle série où il faut que ça rapporte avec Noël.
Renan, tu proposes une série à Geoffrey qui sera obligé de regarder, évidemment.
Ben ouais. J'ai déjà regardé Inside Number 9 à cause de lui. Hein. C'est un épisode que j'ai adoré.
Le cynisme, c'est le roi du cynique ici. J'ai une série pour lui qui est diffusée en ce moment sur Netflix. Ça s'appelle Alice in Borderland. C'est adapté d'un manga culte. Et alors, c'est un croisement. Alors, c'est pas du tout Esprit de Noël. C'est un croisement entre Saw, Battle Royale et Hunger Games. C'est japonais. C'est très, très japonais. Ce sont des jeunes gens, trois garçons qui se retrouvent dans un Tokyo déserté. Totalement déserté. Il n'y a plus personne. Et ils découvrent que pour survivre, ils doivent participer à des jeux mortels. C'est vraiment de plus en plus gore, de plus en plus violent. C'est sur la mort de l'humanité, en gros, et comment on peut survivre dans un monde où il n'y a plus d'humanité. Je crois que Geoffrey, c'est particulièrement pour toi. C'est plein de cynisme et d'effets sanguinolents. C'est merveilleux. Alice in Borderland sur Netflix. Vraiment, c'est à ce binge, ça se regarde tout seul. Alors, à Noël, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais bon, c'est formidable.
Au point où on en est. Geoffrey, à toi d'offrir une série à Perrine.
Ok, eh bien, pour rester dans la veine des salopards dans les séries et de la bonne humeur, j'ai envie de reparler de Derby Girl, qui est une série française qui date d'il y a un mois ou deux, je dirais, ou deux, trois mois, je ne sais plus. Cette année a été tellement vive que je m'y perds. C'était peut-être en janvier 2018, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez cool. C'est l'histoire d'une pauvre meuf qui a été quasiment championne de patinage artistique et qui n'a pas apprécié d'être en deuxième place. Donc, elle a attaqué au patin la première de la classe. Et donc, elle se retrouve un an ou deux après, avec quelques kilos en plus, dont elle-même parle en disant qu'elle a un gros cul, vendeuse dans un espèce de go-sport dans une ville de merde. C'est une loseuse qui déteste le monde presque autant qu'elle-même, même si elle ne le sait pas encore. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il y a une équipe de derby super nulle dans la ville et elle va essayer de les rejoindre. Elle est odieuse du début à la fin. C'est ça qui est génial. Et elle lance des missiles à peu près à tout le monde. Et ce que j'aime bien dans la série, c'est que ça y va à fond. Tout le monde est complètement taré. Il y a un nombre de répliques et de situations absolument dingues. Il y a des moments où l'héroïne est avec un flic qui sont complètement lunaires. Tout le monde est méchant, tout le monde est ridicule. Ça ressemble vraiment à la vie. En fait, la caricature de la vie ressemble plus à la vie, ressemble mieux à la vie que quand on essaie de faire un docu. Donc, je vous conseille ça.
Oh, l'équipe de dépressifs chroniques, ça ressemble à la vie, c'est que de la merde.
Non, c'est des losers, mais ils sont super drôles et touchants, c'est comme la vie.
Voilà.
Ouais. Comme Perrine. Allez, go.
Sans transition aucune, Perrine, une recommandation pour Ronan.
Je vais te recommander un truc dont je te parle depuis 15 plombes, qui est une série absolument sublime, même, sur Arte. Je recommande à Ronan, je recommande à tout le monde. C'est une série anglaise qui date, je crois, d'il y a de quelques années maintenant, mais qui arrive maintenant sur Arte. Et l'histoire d'une femme qui est une jeune veuve, elle vient de perdre son mari, et on démarre la série là-dessus, c'est le jour de l'enterrement. Alors, comme ça, ça paraît pas rigolo, mais en fait, c'est une série qui est très douce, qui est très joyeuse, qui est très tendre, en fait, et c'est cette femme, son ami de toujours, son fils, sa belle-fille, ses beaux-parents, son frère, sa belle-sœur, et on va retrouver toujours ces mêmes personnages d'épisode en épisode, et c'est comment on vit le quotidien. De toute façon, c'est une série sur l'empêchement, qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on ne doit pas être. C'est une série sublime qui prend son temps, qui regarde là où les autres ne regardent pas, les autres séries ne regardent pas, elle laisse le temps sur les regards, elle laisse le temps sur les silences. On va regarder quelqu'un fumer une clope pendant 15 plombes et on sait exactement ce qu'elle est en train de ressentir. Elle nous dit que l'enfer, c'est les autres, mais que sans les autres, en fait, c'est un petit peu chiant, le paradis. Donc, c'est vraiment une merveille en trois saisons, de 6 épisodes par saison de 30 minutes. Faites-vous ce cadeau-là, fais-toi ce cadeau-là, Ronan, pour Noël.
Ça va être rapport avec moi, pardon. J'ai pas bien compris le rapport avec moi.
T'as besoin de tendresse,
T'es un peu notre mum à toutes.
Voilà. Je suis votre mum à vous, c'est vrai.
Et pendant que vous êtes sur Arte.tv, profitez-en pour regarder Young Doctor's Notebook d'après Bulgakov, qui est une série médicale complètement zinzin avec John Hamm et Daniel Radcliffe. Voilà, c'est mon conseil. En revanche, ma recommandation à vous trois, c'est Balthazar, parce que vous ne méritez que ça. Pardon, la méchanceté de la personne. Écoutez, mes amis, c'est ainsi que ce We Love Series se termine, et c'est d'ailleurs ainsi que We Love Series se termine tout court. Oui, c'est la fin des émissions. Merci.
Je suis seule à le faire, hein.
Ouais, j'aurais voulu un peu plus de tristesse chez Perrine et Geoffrey, mais je vois bien que...
Non, mais j'allais dire, c'est Noël. Noël, c'est de la merde, et on en a la preuve aujourd'hui. Quoi, c'est ça.
En tout cas, merci aux invités venus partager leur coup de cœur ici. Merci à vous qui nous écoutez. Merci aux équipes de Binge. Et merci à vous, les copains, Perrine Kenson, Renan Cros, Geoffrey Crété. J'embrasse bien fort Charlotte Blum, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et tous les autres experts passés par ce studio. Bisous, les amis.
Et merci à toi,
Charline, bientôt.
Oui, merci.
On a vraiment beaucoup ri grâce à toi.
Merci, bisous, les chatons.
C'est toujours un plaisir. Bisous et Molo Molito, évidemment.
Molo Molito forever.
Molo Molito never dies.
Molo Molito never dies, exactement.
Voilà, je crois que c'est la meilleure conclusion.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.